France Culture.
À voix nue, Antoine Couder.
Rodolphe Burger, musicien.
Cinquième épisode. Et aujourd'hui, que reste-t-il de nos vies, 2024 et après? Bonjour Rodolphe Burger.
Bonjour.
On se retrouve aujourd'hui dans la cuisine de votre appartement parisien, place de la République, pour un ultime épisode de cette À voix nue qui nous a permis de traverser un peu de votre vie, écouter votre musique, entrer dans cet espace de déploiement, de mystère aussi. Je pense à une autre séquence avec la voix de Gilles Deleuze que vous avez incrustée dans une chanson. Qu'est-ce que ça veut dire le rythme? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça?
Ah oui, c'était une chanson qu'on a faite avec Olivier Cadio, justement dans un album qui s'appelle Hôtel Robinson. Et c'est un cours auquel j'ai assisté, en fait, qui était un cours sur Spinoza. Et Deleuze prend un exemple, comme il avait ce génie des exemples. Alors, c'est, je sais nager, j'ai volé. Vous sentez bien que c'est un étrange bonheur. Voilà une chanson qui justement rend la voix de Deleuze comme une sorte de madeleine, quoi, de très puissante, avec des phrases fétiches, quoi.
Ouais, je nage. Je me souviens, l'une de nos premières rencontres, vous m'avez donné l'essentiel de votre œuvre en CD. J'étais très impressionné, c'était un beau geste, généreux, mais c'était énorme. Et j'y repense aujourd'hui, je crois que j'ai mis de très longues années à digérer finalement tout ça, à comprendre la vitalité de ce qui circule à l'intérieur, hein, ces allées et venues. Ah oui, cette chanson, elle est aussi là. Ces chansons que vous reprenez avec d'autres, qui du coup s'en trouvent transformées. Par exemple, cette chambre de Katonoma que vous avez repris beaucoup plus tard avec le chanteur Christophe.
Oui, c'est lui qui... alors c'est drôle, il appelait cette chanson « La petite pomme ». Et donc je l'avais invité au Trianon pour un concert en trio et il m'a dit « Ah oui, je viens, j'aimerais bien chanter La Petite Pomme ». Et c'est évidemment très très émouvant, quoi, d'entendre tout d'un coup Christophe chanter une chanson en essayant d'anticiper comment il va le faire. Et à la balance, il le fait d'une certaine manière et au concert, il le fait encore d'une autre façon.
Ouais, vous êtes bien calé avec sa voix plutôt aiguë et la vôtre.
Oui.
Alors je reviens encore avec cette affaire d'aller et venue dans les chansons qui reviennent, et j'ai repensé finalement à ces structures du poème classique du XVIIe siècle, hein, où les vers se répètent et en même temps ils se modifient, ils précisent, ils se déportent, et je trouve que c'est une belle image de votre travail, cette fausse répétition. Mais il faut ajouter aussi que vous savez être modeste et apporter un peu de drôlerie au quotidien, de la poésie. Être un homme, me disait quelqu'un qui vous est proche, c'est faire de la place aux amours et à l'amitié. Ou mieux encore, ces mots d'une fine lettrée de la cour impériale du Japon du XIe siècle, que vous connaissez certainement, Seisho Nago, toutes ces choses qui font battre le cœur. Je pense que vous avez peut-être des choses à dire sur cet élan.
Oui, donc c'est vrai que la musique, alors ça c'est quelque chose, j'ai raconté comment j'y suis revenu en éprouvant son pouvoir consolateur. Et ensuite, au fil du temps et des expériences, j'ai découvert sa puissance de connexion, le pouvoir qu'elle a de rassembler, d'établir des liens, de renforcer des liens, de rendre heureux. Vraiment, c'est donc quelque chose, certainement dans mon rapport à la musique, c'est aussi détendu, dans le sens où vous parlez de ces choses drôles éventuellement qui peuvent apparaître. C'était pas le cas du tout, hein, au début de Katonoma, il y avait une certaine gravité. Et je suis moi-même surpris, j'aurais jamais imaginé me retrouver un jour à chanter comme Rachid me l'a proposé en alsacien, sur une chanson d'Abdelkader en arabe. Il me dit, vas-y, chante en alsacien. Et je me retrouve à le faire et à chanter. Donc voilà, la musique m'a amené à des endroits très inattendus. Et l'expérience fondamentale qu'elle permet, c'est quand même c'est l'incroyable aventure humaine que ça permet. Enfin, les connexions, quand je me retrouve en Ouzbékistan et qu'on a un traducteur parce qu'on ne parle pas la même langue avec les musiciens du conservatoire de Tashkent. Et qu'au bout de 10 minutes, on congédie le traducteur, parce que ça discute beaucoup mieux directement avec les instruments. Et là, ça, vérifier ça, vérifier ça, c'est un, oui, ça a été un bonheur incroyable. Et voilà, on y va d'abord un peu, on marche sur des œufs. Je me souviens d'avoir la première fois où j'ai joué avec l'ensemble Kaboul, qui était un ensemble traditionnel afghan. Et j'étais supposé jouer avec eux. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Enfin, je ne peux pas entrer dans cette... Je ne connaissais pas les codes, je ne connaissais pas la grammaire musicale. Tout le concert était en do dièse. Donc je découvrais ce que c'est que la musique modale, où il n'y a jamais de changement d'accord. Et puis à un moment donné, je commençais quand même à appuyer sur quelques pédales et j'ai vu les sourires des musiciens me disant, mais vas-y. En plus, avec l'humour afghan, vas-y Rodolphe, envoie les bombes sur Kaboul, quoi. Donc ce qu'ils voulaient, c'est pas du tout que je vienne, moi, paraphraser simplement leur magnifique mélodie, mais que je vienne avec mon langage à moi. Et voilà, et ça, j'avoue, cette expérience renouvelée, à chaque fois, c'est merveilleux, quoi.
Donc c'est une aventure de la pensée, la musique.
Oui, ouais. Tout à fait, et aussi, bien sûr, du cœur. C'est une expérience que je n'imaginais pas aussi... m'amener aussi loin, j'avoue.
Alors, j'aimerais évoquer avec vous le poète Pierre Alféri, hein, l'un de vos grands amis, malheureusement décédé en 2024. C'est un compagnon de longue date, hein, qui a beaucoup apporté à l'édifice Catonoma et à Rodolphe Burger. C'est le fils de Jacques Derrida. Il a notamment écrit cette chanson « Que reste-t-il de nos vies ?» Puis une autre aussi que j'aime beaucoup, qui s'appelle « J'erre, J' apostrophe » du verbe errer, où il écrit au monde qui nous digère. Alors, on ne sait pas trop s'il nous gère, du verbe gérer, ou s'il nous a avalé et qu'il va nous digérer. À ce monde qui nous digère, écrit-il, j'oppose une voix légère. Et je trouve que ça révèle aussi quelque chose de vous.
Oui, non, l'a évoqué Pierre, c'est évoqué celui, vraiment, la personne. La plus chère à mon cœur, mon grand ami, avec lequel j'ai partagé énormément de choses. Il me manque énormément. Et en même temps, j'ai l'impression, alors, qu'il reste présent à travers ce que je suis en train de faire. Par exemple, j'ai un album qui, à venir là, qui s'appelle Avalanche, qui va lui être dédié, et qui est vraiment dans le prolongement de ces choses que nous faisions ensemble, qui s'appelait Ciné-Poème. J'intègre l'image aussi dans ce projet, et des images qu'il a lui-même suggéré, parce qu'il avait, en plus de ses talents incroyables de poète, d'écrivain, il avait aussi une culture, bon, je parle pas de sa culture littéraire, alors lui, à tous les coups, il vous aurait récité en japonais le truc du 11e siècle, mais aussi une culture cinématographique. C'était un cinéphile, enfin, c'est au-delà de la cinéphilie, quoi. Et il avait une mémoire intégrale du cinéma, il se souvenait de pratiquement plan par plan de tous les films qu'il avait vus. Et je lui ai demandé, l'année dernière, d'associer à chaque morceau de ce nouvel album une scène de film et avec une monteuse magnifique, Cynthia Delbar, à qui on travaillait, on est en train de réaliser des montages et donc j'ai l'impression d'une certaine façon de continuer, quoi, le travail avec lui.
Ouais. Et pour rester dans cette sphère un peu intime, je me permets de vous questionner sur un autre sujet sensible mais également éclairant, je pense, pour nos propos qui concernent Pierre Alféri, c'est son frère Daniel, qui est son demi-frère, hein, qui est né d'une autre union de Jacques Derrida, et que celui-ci n'a jamais reconnu en tant que fils. Je sais que vous avez eu vent de cette histoire parce que vous étiez proche de Pierre, et je me posais la question, au-delà des réactions qu'on peut avoir les uns les autres, c'est qu'est-ce que c'est qu'être un homme et qu'est-ce que c'est qu'être un père ? Vous-même, vous êtes père, vous avez deux enfants.
Oui, non, c'est vrai que là, on touche à quelque chose, un sujet assez douloureux, qui reste même assez énigmatique. Hein, Dieu sait que j'ai aimé Jacques Derrida comme penseur et aussi comme ami, père de Pierre, père de famille. J'ai assisté à de nombreux repas de famille. Et puis il y avait au milieu cette espèce de secret, sans aller jusqu'à le comparer à Rousseau qui avait abandonné ses enfants. C'est vrai que j'avais du mal à comprendre pourquoi, comment on pouvait ne pas reconnaître un enfant, que tout le monde sait, y compris Marguerite, son épouse, lui demandait de le faire, etc. C'est un sujet, mais enfin, je voyais bien à quel point c'était douloureux pour Pierre et pour ce silence imposé, quoi.
Oui, il y a un peu de silence toujours un peu dans la poésie. Une anecdote à ce sujet, vous vous baladez avec votre compagne et votre jeune fille dans le coin de Sainte-Marie et vous croisez quelqu'un qui vous regarde et qui vous dit, ah, on peut être un rockeur et avoir une famille.
Ah oui?
Oui.
Bah oui. Mais je suis pas le seul. Hein. Enfin, et puis, c'est la même affaire que voilà, la rockstar qui se doit d'être un sex symbole, etc., etc. C'est pas que ça n'existe pas, mais que, au fond, ça fait pas de mal de le démystifier aussi et de voir ce qui reste, ce qui tient.
Est-ce qu'il y a un moment où il y a eu quelque chose que vous reconnaissez comme quelque chose qu'il faut suivre?
Ben, je sais où vont mes admirations, quoi. Je sais ce que j'aime et ce que j'admire chez les autres, et donc je me dis que j'aimerais éventuellement partager quelque chose, mais sans en être jamais certain, quoi. Ce que j'admire, c'est la sincérité, la loyauté, le courage de la pensée, le courage de l'amitié, de l'amour. Ça demande du courage, en fait, d'être loyal par rapport à ça. Et surtout quand on est par ailleurs aussi sur un chemin, en effet, oui, dans une quête de liberté, qui commençait la liberté. On n'est pas toujours facile à articuler avec les obligations sociales, familiales, morales, etc. Donc comment faire pour ne pas faire de mal autour de soi, déjà, tout en ne lâchant rien de son désir. Ça, c'est une... Rien que ça, c'est une tâche.
C'est notre question, oui. Je reviens aux enfants et à la transmission. Il semblerait que du studio de la ferme, vous avez laissé les clés à votre fils.
Oui, ou il les a prises.
Ou il les a prises.
Non, ça a été vraiment un des effets secondaires salutaires du confinement. Mon fils Simon, qui a grandi à Paris, qui a fait des études à Nantes, aux Beaux-Arts de Nantes, et un petit peu à Strasbourg après, il est venu, pendant le confinement, s'installer un peu dans ce qu'on appelle la ferme, c'est-à-dire ce studio d'enregistrement, qu'on a installé au fil des ans avec Catonoma, et puis ensuite, que j'ai développé aussi, dans une ancienne ferme familiale. Et j'avoue que ça a été une surprise, je pense, pour lui, pour moi. Et là, maintenant, il s'est basé là-bas. Il fait des tas de choses de manière complètement indépendante de moi. Il organise des soirées. Il a colonisé toute une partie de la ferme, qui était une ancienne grange. Il organise des soirées. C'est comme un festival qu'il organise lui, avec un mini-festival qui dure une nuit. Et du coup, c'est aussi le moment où je vois arriver à la ferme. Il vient d'enregistrer un album. Il découvre aussi, et je crois, il y prend goût, les joies de la production. Et je vois arriver à la ferme ou passer à la ferme des groupes formidables. Donc ça, c'est un bonheur. C'est un bonheur aussi dans mon équipe de travail. Je travaille avec des gens très jeunes.
Comment vous les voyez, ces jeunes gens?
Je les adore, je les admire. Je suis très impressionné par leur capacité dans le monde difficile qu'on leur laisse, là, à garder la tête froide et surtout le cœur bien en place, quoi. Il y a des... Parler de musique, par exemple, je sais que ma principale source d'information sur ce qui se passe, c'est mon fils, quoi. Et je sais pas comment il se débrouille, parce qu'il lit plus du tout de presse. C'est vraiment plus la presse le vecteur aujourd'hui. Mais il est au courant de tout, il y a absolument plus. Alors ça, c'est assez heureux par rapport à ce que j'ai connu, moi. Dans mon adolescence, il y avait quand même un sectarisme incroyable. Si on aimait, je sais pas quoi, le métal, le death metal, on pouvait pas aimer en même temps. Bon. Et là, c'est vraiment plus le cas. Là, c'est tout a absolument explosé. Donc, sa curiosité musicale, elle est tous azimuts. Par exemple, je l'ai convié sur mon album Environ. On a fait une reprise ensemble d'un morceau de Cannes qui s'appelle Mushroom. Parce que je l'ai vu danser avec ses copains sur Mushroom de Cannes, alors que moi-même, 30 ans avant, je dansais avec mes copains sur Mushroom de Cannes.
Et là, vous avez une voix inédite sur ce morceau, je trouve.
Ah oui, et lui, il joue de la guitare. Donc évidemment, ça, c'est une joie de la vie, quoi. Mais depuis tout petit, il est mon directeur artistique occulte.
Alors, je voudrais cheminé dans cet entretien sur un autre point finalement, c'est j'essaie de voir ce qui a changé, ce qui change encore, et j'aimerais parler de cette notion de concentration, parce que j'ai l'impression que vous êtes très concentré. Alors finalement, en discutant avec les uns et les autres, on me dit non mais Rodolphe a toujours été concentré. Oui, mais j'ai l'impression que vous êtes plus concentré encore maintenant, hein, que vous flottez légèrement sur les choses peut-être aujourd'hui, mais toujours très très concentré. Alors peut-être un mot sur, on a parlé du rock'n'roll, sex, drugs and rock'n'roll, on n'a pas parlé des drogues, mais on peut parler peut-être dire un mot sur l'alcool qui est parfois une manière de nous lier, de nous fêter, de nous célébrer, et qui à un moment devient peut-être quelque chose dont il faut se défaire.
Oui, enfin, c'est vrai que je dirais que ça fait quoi ? Alors je dirais peut-être une dizaine d'années que j'ai vraiment le sentiment de pouvoir profiter de ma liberté. Ça a été très long de la conquérir. Je parle là vraiment d'une liberté artistique et de pouvoir faire des choses aussi dans une espèce d'économie qui tient. Et de ne pas être dans l'angoisse quotidienne, dans la précarité. Et donc j'ai une compassion infinie et à vie pour toute forme d'expérience de ça, de la précarité. Je trouve que c'est parce que ça détruit la possibilité même d'être créatif, etc. Ça fout la vie en l'air. Et je suis passé par des moments comme ça d'incroyable découragement à cause de ça. Et ça fait que 10 ans que, à peu près, disons, je peux jouir de cette liberté. Et j'avoue que j'en profite avec. Et du coup, je suis en effet concentré sur chaque épisode. Et le souci devient uniquement celui de sa santé. C'est-à-dire, il s'agit d'être en forme, tout simplement. Et à un moment donné, j'ai juste constaté que l'alcool, par exemple, fait partie tellement des habitudes, en général, mais sociales, mais en particulier dans le domaine de la musique. On parle pas de la drogue, mais l'alcool, c'est vraiment partagé, quoi. Tout est prétexte à boire, enfin. Avant un concert pour se détendre, après un concert pour le fêter, Si chaque concert est, comme il se doit, un événement, ça se célèbre, ça se fête. Donc comment faire pour fêter ? Pour rester dans cette idée d'une fête, en ne subissant pas le contre-coup de l'alcool à partir de l'âge de 50 ans, voilà, l'alcool au quotidien, même si on n'est pas alcoolique, on est plus dans un alcoolisme mondain, mais intense, quoi, tout quotidien. Du coup, voilà, j'ai testé l'abstinence pour voir si c'était pas un moyen de reconquérir de l'énergie et de la force. Oui. Et voilà. Et ça marche. Ça marche très bien. Mais après, bon, on se dit, on peut reprendre un peu d'alcool pour le plaisir de ça. Enfin, voilà, c'est ce réglage aussi qu'il faut trouver, parce que malgré tout, l'ivresse maximale, elle se trouve quand même dans la chose qu'on fait. Enfin, c'est plus que dans l'alcool qu'on boit, quoi.
Bien sûr. Bien sûr, merci pour ces éléments. Alors, il y a un point sur lequel je voudrais presque terminer, pas tout à fait. C'est de revenir un petit peu d'essayer de lier la musique et le territoire, et notamment le fait de marcher dans cette vallée. Et tout de suite apparaît l'ombre du romantisme allemand, surtout en Alsace. Et il y a ce texte de Buchner qui s'appelle Lenz, et dont vous avez fait une sorte de mantra, et peut-être vous pouvez nous en dire un mot.
Oui, c'est vrai que c'est très étrange, quoi. Il est revenu, il s'est réimposé à moi. C'est quelque chose. C'est un texte qui a été très important dans mes années d'études philosophiques à Strasbourg, quoi. Un texte un peu fétiche, presque un signe de ralliement entre certaines personnes. C'est une nouvelle inachevée de Buchner qu'il a écrite à Strasbourg après avoir lu le journal d'un pasteur appelé Oberlin et qui habitait à Waldersbach, dans la vallée qui est toute proche de ma vallée natale. Et j'y allais justement, Waldersbach. C'était un voyage rituel avec les pasteurs de la paroisse quand j'étais gosse. On allait à Waldersbach visiter le presbytère, le petit musée du pasteur Oberlin. Ça a scandé un petit peu, je dirais, mes années de formation. C'est-à-dire à la fois du côté alors du protestantisme, puis après je découvre cette nouvelle extraordinaire de Buchner qui raconte, inspiré par le journal d'Oberlin, l'épisode où Berlin a recueilli Lenz, qui était un écrivain allemand, en perdition, dans un état psychique de crise philosophique, de crise religieuse et de crise psychologique. Et donc, ce texte commence par le 20 janvier, voilà, Lenz arrive à pied à Waldersbach, dans le village d'Oberlin, et venu de Suisse, donc il a marché comme ça dans la montagne, dans le froid hivernal. Oberlin le recueille et décrit, voilà, ce séjour. Et Büchner écrit une nouvelle magnifique, qui est peut-être la première description clinique d'un cas de psychose, psychose dans le rapport à la nature, etc. On sait par exemple que Lenz a prêché un jour où le pasteur Oberlin était en vadrouille dans... Il l'a laissé prêcher un dimanche dans la paroisse et qu'il a paniqué absolument tous les paroissiens par ses propos. Il était frappé par l'athéisme. C'est comme ça que Büchner le décrit, ce texte. Alors, il m'avait beaucoup frappé à l'époque. Il y a eu une mise en scène très célèbre sur la cathédrale de Strasbourg de ce texte par des metteurs en scène allemands, parce que le TNS, dirigé par Jean-Pierre Vincent, à l'époque, a été un lieu très important de passation d'un certain théâtre allemand. Vincent a fait venir des Allemands à Strasbourg, et ça a été un vrai événement, un vrai moment de bascule, des gens comme Gruber, etc. Et il y a eu une mise en scène absolument historique que je n'ai pas vue, mais on m'a beaucoup raconté.
C'était en quelle année ?
Ça, c'était dans les années... C'était en 80, quelque chose comme ça. Et c'est sur le toit de la cathédrale. Un Lenz absolument mémorable, les gens qui ont vu en parlent encore, quoi. Bon, et il se trouve que, alors, je crois que c'était, j'ai été invité à la Fondation Michalski près de Lausanne à l'occasion de la parution d'un livre de photos sur Waldersbach, et puis il y avait Jean-Christophe Bailly qui est écrivain spécialiste de ce romantisme, de Büchner en particulier. Et il a écrit d'ailleurs un texte qui s'appelle Le 20 janvier, Jean-Christophe Bailly. Même jeune, il allait, le 20 janvier, il allait commémorer le Lenz de Büchner en placardant des affiches à Strasbourg dans la rue. Donc il y a eu un côté, autour de ce texte, il y a eu quelque chose là, un ralliement. Et bref, je me suis rendu là et j'ai fait une lecture musicalisée, quoi, du début du texte. Et c'est le moment où j'achevais le mixage tout près, d'ailleurs chez mon ami Christophe Calpini, qui a son studio également en Suisse. On achevait le mixage de l'album Good. Et pour moi, ça s'est imposé, que voilà, alors que j'aurais jamais pensé avant, que ça pouvait pourquoi pas rentrer dans un album. Et donc ça a fait la fin de l'album Good. Ensuite, sur l'album suivant environ, j'ai mis un deuxième Lenz. Je l'ai fait bien des fois avec Belin, par exemple, Bertrand Belin, qui aime beaucoup ce texte aussi, on l'a fait en duo, etc. Il y a un troisième Lenz à venir là sur l'album Avalanche. J'ai fait beaucoup de choses aussi avec mon ami Jean-Luc Nancy, philosophe, qui adorait, en fait, j'ai découvert ça, se costumer et faire l'acteur. On a fait des films absolument extraordinaires ensemble, bricolés et en même temps magnifiques, parce qu'il jouait très très bien, autour de Lenz. Donc il incarne même un Lenz de 80 ans, totalement improbable, revenu de Moscou. On visite ensemble une exposition sur Goethe. Voilà, Lenz est devenu en effet une sorte de
compagnon.
De compagnon.
On est bien sûr dans ce romantisme allemand et on va finir avec l'une de vos dernières fréquentations, c'est Franz Schubert et ses voyages d'hiver. Magnifique chant, hein. Pendant longtemps vous disiez, vous n'osiez pas vous saisir de ces chants, peut-être encore la peur de s'évanouir. Hein, c'est Sarah Montia, je crois, contrebassiste.
Oui.
Et accompagnatrice, éclairée, hein, de vos disques, qui vous a accompagné à la croisée de ce chemin presque du blues, hein, et des voyages d'hiver. Et vous avez fini par chanter très joliment, hein, dans l'album qui s'appelle Environ.
Schubert, c'était le musicien préféré de mon père. C'est vrai qu'il y a une sorte de réconciliation comme ça avec... Je me suis autorisé à chanter ça, c'est que je pense que le chant lyrique ne convient pas au leader. Schubert lui-même organisait ce qu'il appelait des Schubertiades, qui étaient des soirées entre amis, où on faisait bombance, on buvait du schnapps et on chantait en s'accompagnant au piano. Et Stéphane Eicher aussi m'avait dit ça, je me souviens. Il m'avait dit, tu sais, les leaders, il faut les chanter comme dans une Windstube, entre amis. Et donc, je me suis lancé dans le premier et le dernier des leaders du cycle magnifique du Winterreise. Et c'est Sarah Murcia qui est au piano, Christophe Calpini qui est, lui, à la rythmique électronique, comme ça. Et c'est évidemment très intéressant de regarder à la loupe comment c'est fait, hein, comment c'est écrit, Schubert. Ce morceau, l'Ayerman, par exemple, c'est vraiment de la musique modale. On parlait de musique modale à propos des Afghans. Et là, c'est de la musique modale. Ça ne change pas d'accord. C'est écrit au millimètre. C'est à la fois minimal et d'une parfaite sensibilité. C'est très beau.
Merci beaucoup pour votre hospitalité et pour cette conversation. Bonsoir, Rodolphe Burger.
Bonsoir, merci beaucoup à vous aussi.
C'était À Voix Nue, réalisation Jean-Philippe Navarre, prise de son Benjamin Reyes, chargé de programme Daphné Abgral, une série d'entretiens proposée par Antoine Couder, disponible sur franceculture.fr et l'application Radio France.
Drüben in dem Dorf steht ein Leiermann. Und mit starren Fingern dreht er, was er kann. Barfuß auf dem Eise wankt er hin und her. Und sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer. Sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer. Keiner mag ihn hören, keiner sieht ihn an. Es gehen alles wie es will. Dreht und seine Leier steht ihm nimmer still. Dreht und seine Leier steht ihm nimmer still. Meinen Lieder deine Leier drehen.